Monobloc.
Cet après-midi, sur Radio Monobloc, vous allez entendre différentes versions de réponses à la question « Que fait l'homme de Palerme le jour de son anniversaire ?» Et cette question, on se l'est posée grâce à une histoire qu'Adrien et Clément ont entendue.
Alors en effet, nous, avec Adrien, on se la pose depuis l'été dernier. L'été dernier, en Inde, dans un train couchette qui nous amenait de Goa à Hampi, on a rencontré deux Français et un de ces Français nous a raconté qu'il avait lui-même rencontré à Palerme un homme qui lui avait raconté son histoire. Et son histoire, c'est que cet homme était un ancien mafieux qui avait été condamné par la mafia, non pas à mourir, mais à être enfermé toute l'année dans un hôtel. Et le seul jour où il avait le droit de sortir de cet hôtel, c'était le jour de son anniversaire. Donc on s'est posé la question, que fait l'homme de Palerme le jour de son anniversaire ?
Et moi, ma réponse à cette question, elle n'a pas de titre, mais si elle devait en avoir un, ce serait la boulie. La boulie, c'est un mot qui désigne un état dépressif qui rend incapable de prendre la moindre décision. Allongé sur le lit de sa chambre d'hôtel, il se masse lentement le crâne et dessine avec ses doigts de petits mouvements circulaires du milieu de son front jusqu'à sa tempe gauche. Il espère déplacer la barre de mauvais alcool qui l'empêche d'ouvrir les yeux. Il soupire et le regrette instantanément. Sa propre haleine vient de lui remonter dans les narines. Il est temps pour lui de prendre une grande et sage décision. Désormais, s'il expire par la bouche, il inspirera ensuite aussi par la bouche, histoire de tout tenir loin de son nez. Mais s'il ne se sent pas capable d'être aussi discipliné, il aura toujours la possibilité d'utiliser sa mauvaise pâteuse pour garder les lèvres soudées et toute sa respiration se passera par le nez. Inspirer par la bouche, expirer par la bouche. Inspirer par la bouche, expirer par la bouche. Inspirer par la bouche, expirer par le nez. Inspirer par le nez. Tiens, comme ça, ça marche aussi. Il sourit. Son ingéniosité lui ferait presque oublier sa gueule de bois. Mais surtout, il sait que c'est aujourd'hui la dernière fois qu'il se réveille dans cet hôtel crasseux. Aujourd'hui, il a 52 ans. Pour la première fois depuis un an, il va pouvoir franchir cette merde de porte à tourniquet. Jusqu'au coucher du soleil, il pourra marcher en ligne droite, sauter, conduire, courir, en pas chasser pourquoi pas, s'allonger dans l'herbe, aller voir la mer. Il ricane. S'allonger dans l'herbe. Qui aurait de telles idées de tapette milanaise pour sa seule journée de liberté de l'année ? Aujourd'hui, il le sait, il tuera 3 hommes et enlèvera sa propre femme. Bon anniversaire. Ses doigts se déplacent de sa tempe jusqu'à sa paupière gauche. Il parvient à l'ouvrir. Il tente de faire de même avec l'œil droit, mais finalement le referme. Il n'en a pas besoin pour l'instant, autant s'économiser. Quelle heure peut-il être ? Il a bien entendu les cloches de l'église Saint-Ignace il y a quelques minutes, mais elles n'ont sonné qu'une fois. Il est l'admi. Mais de quoi ? Son œil gauche regarde la petite fenêtre de sa chambre. Par les persiennes, les rayons du soleil atteignent presque le coin droit de son armoire. Il sait qu'à 11h, les rayons du soleil sont presque exactement entre l'armoire et la fenêtre et strient la vilaine moquette Bordeaux. Avant cela, à 10h, ils vont jusqu'à la gauche de l'armoire. À 9h, les rayons sont entre la poubelle et le coin gauche de son lit. Avant 9h, il ne sait pas. Il se dit qu'il devrait mettre un réveil un jour pour voir. Qu'en posant le balai de ses toilettes au milieu de la table et en le plaçant correctement, il pourrait peut-être même se fabriquer son propre cadran solaire. Il lui faudrait un marqueur. Angelica doit bien avoir ça en bas à la réception. En attendant, regarder sa montre lui demande moins d'efforts. Il tend le bras, l'amène devant son œil. C'est bien ce qu'il pensait. Il est 10h30. Il a encore raté le petit déjeuner. Un autre jour, il serait descendu en peignoir et aurait supplié ce gros radin de Lucchino de lui lâcher un crouton avec son café serré. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça lui est égal. Il va pouvoir avaler son petit déjeuner ailleurs que dans cette salle de restaurant immonde. Ne pas s'énerver à chaque gloussement d'Angelica à la réception qui l'empêche d'entendre la télévision. Et espérer manger autre chose qu'un petit déjeuner continental à la con. Quelque chose qui lui donne des forces. Car pour aujourd'hui, il a des projets un peu plus consistants qu'un cadran solaire emballé à chiottes. Il n'est pas un tolard mou et résigné à la mauvaise odeur et au réveil tardif. Il a été puissant et il l'est encore. C'est aujourd'hui qu'il va le leur montrer. Mais tout ça doit vraiment commencer par autre chose qu'un petit déjeuner continental. Il se lève et se gratte l'aisselle gauche, sent machinalement ses doigts. Bof. A-t-il le temps de passer sous la douche ? 10h30, c'est un peu plus tard que ce qu'il imaginait. La veille, pour une fois, il voulait se coucher tôt. Comme tous les soirs, il s'est tout de même installé après le dîner au bar de l'hôtel et a continué à envoyer des cacahuètes dans son ventre déjà gonflé. Mais cette fois, il ne boirait qu'un seul whisky. À 11h, il serait couché. La viande dans le torchon, pensait-il. Mais Lucchino, pour une fois, a été généreux. Allez, je t'en offre un petit deuxième pour patienter jusqu'à minuit, c'est quand même ton anniversaire. T'es pas pressé de foutre un pied dehors? Si t'attends jusqu'à minuit, tu pourras t'en griller une le cul sur le doigt, moi, si t'en as envie. Il s'était moqué. Je t'en offre un, tu me prends pour un con? Comme s'il réglait ses extras un par un à Lucchino. Depuis 8 ans qu'il était enfermé là, ils seraient tous les deux devenus fous. Lucchino n'avait d'ailleurs jamais voulu lui expliquer comment sa chambre était payée. Enfin, ce n'était pas son problème. Il serait bien content de se faire mettre dehors. Il a accepté l'offre de Lucchino et s'est envoyé un deuxième verre. « Qu'est-ce que tu vas faire demain ? Ils ont dit à la télé tout à l'heure que ça allait être une putain de belle journée. » Il avait ricané. Est-ce que Lucchino s'imaginait vraiment qu'il allait passer sa seule journée à l'air libre de l'année à la plage comme un touriste ? Si tu veux savoir, va falloir me servir le troisième. Demain, il allait leur montrer qu'il n'avait pas changé. Qu'on ne pouvait pas l'enfermer pendant des années en attendant qu'il meure à petit feu. En attendant qu'il disparaisse, qu'il s'évanouisse progressivement. C'est à cela qu'il avait été condamné. Il avait une journée pour s'en échapper. Et il savait exactement comment. Depuis un an, il répétait mentalement toutes les étapes. Ça, évidemment, il ne pouvait pas le dire à Lucchino. Il devait continuer à lui faire croire qu'il avait laissé sa captivité le rendre servile et résigné. Mais lui savait qui il était vraiment. Son plan était prêt. Il était brillant. Il était puissant. Il s'était répété intérieurement chacune des scènes et chacun de ses plans lui confirmait sa force. Et Lucchino qui lui servait un quatrième verre. Lucchino ne savait pas, mais lui savait qui il pouvait être quand il aurait décidé d'agir. 4 étapes. D'abord, celui qui l'avait trahi. Ensuite, celui qui l'avait condamné. Enfin, celui qui vivait avec sa femme. Et elle, ce ne serait que la suite logique. 4 étapes. Et ce 5e verre, alors il fêtait quoi ? Et est-ce qu'il pensait tout haut ? Ou est-ce que c'était la voix de Lucchino qui lui parlait ? Il ne sait pas dire si le sommeil l'a trouvé sur le comptoir ou s'il a réussi à arriver jusqu'à son lit. Sûrement d'abord l'un, et ensuite l'autre. Ses soirées au bar de l'hôtel se terminaient souvent façon Don Calogero Cedara dans le Guépard de Visconti. Ce maire de Donna Fugata que l'alcool endort, avachi et abruti dans un fauteuil au milieu du bal dans le palais des Salinas. Il finissait comme Don Calogero Cedara donc, mais Alain Delon, Claudia Cardinal, le palais et tout le bal lui-même en moins. Rien qu'un gros Don Calogero bien tout seul, le front contre le zinc collant, plus Calogero sur une mauvaise pente que Don quoi que ce soit. Et ce matin, en tout cas, avant de redevenir l'homme fort qu'il sait être, il a besoin d'une grande douche. Il a déjà pris du retard sur ses plans, mais il peut encore tout faire. Le filet d'eau tiède glisse dans son cou, puis le long de son ventre arrondi. La contemplation de cette mince cascade chutant lentement le rendort un peu. Il faut qu'il mange. Tomber dans les pommes ferait mauvais effet. Et tout ça doit commencer par un café. Mais est-ce qu'il ne devrait pas manger d'abord ? Et comment est-ce qu'on s'habille pour avoir l'air de quelqu'un de déterminé ? Quelque chose d'assez confortable. Il n'a pas prévu de courir, il n'en serait pas capable. Mais il se peut quand même que ce soit un peu physique. En même temps, il ne va pas réapparaître après 8 ans en short. Il rigole. Autant garder son peignoir. Enfin, il n'a qu'à descendre prendre un café avant de sortir, il choisira après. Dans la salle du petit déjeuner, il s'installe sur sa chaise habituelle. Il est seul. À la réception, Angelica glousse au téléphone. Lucchino n'est pas là. Après quelques minutes à avancer, puis reculer sa chaise bruyamment pour tenter de signifier sa présence, il décide de prendre les devants et de se faire son café lui-même. Le début de l'indépendance retrouvée. À la télévision, c'est un reportage sur la pêche au thon à la Madrague, dans la ville sicilienne de Favignana. Chaque année au printemps, les thons rouges de l'Atlantique entrent en Méditerranée, cherchant des eaux plus chaudes pour la saison de la reproduction. Les thons longent les côtes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remonter le temps pour se reproduire au chaud. C'est tentant. Il avale trop vite son café et s'en sert un deuxième. Les pêcheurs siciliens étendent des filets en entonnoir de plusieurs kilomètres de long. Les thons s'y engouffrent et poursuivent leur avancée, inconscients d'être déjà enfermés dans des filets qu'ils ne voient pas. Ils se dirigent, ignorant la prison qui les entoure, vers le point d'orgue du piège. Il boit son deuxième café plus lentement, sirotant de petites gorgées amères. Les thons continuent leur progression. Au bout de l'entonnoir, après plusieurs centaines de mètres, des filets divisent le piège en différentes sections, appelées chambres. Au fur et à mesure de l'avancée des bancs de thon, les pêcheurs ouvrent puis referment les filets pour les faire passer dans la chambre suivante et empêcher tout retour en arrière. Le but est de les faire parvenir, enfin, dans la dernière chambre, la chambre de la mort. Il pose un morceau de sucre dans le fond de sa tasse, sur sa dernière goutte de café, l'observe se déplacer lentement à l'intérieur du sucre et l'avale. Une fois tous les thons enfermés dans la chambre de la mort, le responsable de la madrague, appelé Raïs, décide du jour de la pêche. Des dizaines de pêcheurs se placent sur le côté de la chambre de la mort. Sous les ordres du Raïs, ils relèvent le filet jusqu'à ce que les poissons du dessus ne puissent plus nager et les hissent un à un sur le bateau à l'aide de crochets. La mise à mort s'appelle la matanza. Son café lui donne des haut-le-cœurs. Il aurait vraiment dû manger avant de s'envoyer des cafés aussi forts. Revenu au port, les pêcheurs coupent, éviscèrent, frappent, déchirent. Il sent qu'il va vomir. Il traîne ses claquettes éponges sur la moquette de l'escalier. Le café agite dans son estomac des restes d'alcool et lui donne des vertiges. Il faut qu'il s'allonge. De sa chambre, il entend les cloches de l'église Saint-Ignace sonner une fois. Il doit se ressaisir. Il est le Raïs et il l'a décidé. Aujourd'hui est le jour de la matanza. Et le Raïs ne peut pas être un ton. Il s'imagine debout au milieu du bateau, supervisant le travail des pêcheurs, distribuant les crochets, surveillant la remontée du filet. Les thons s'agitent par centaines dans la chambre de la mort. Des groupes de 3 à 6 hommes remontent une à une les masses fatiguées. Ce lent et brutal balai, sous le lourd soleil sicilien, semble ne jamais pouvoir finir. L'odeur du poisson et du sang l'étourdit, mais il doit rester droit. Il est le Raïs. Un homme, à sa droite, le fixe, soudainement effrayé. Il s'arrête. Pourquoi est-ce qu'il le regarde comme ça? Le soleil est épais, dur. Ce ne sont maintenant plus un homme, mais 3. Qui fixe son visage. Leurs crochets leur sont tombés des mains. Il porte ses mains à ses joues et sent avec effroi, le long de chacune de ses oreilles, 2 grandes ouvertures visqueuses qui s'ouvrent et se referment au rythme de sa respiration. Il baisse les yeux vers son ventre rond. Le soleil de Sicile scintille dans ses écailles argentées. Il relève la tête. Lentement, les 3 hommes viennent de ramasser leurs crochets. Il ouvre brusquement les yeux, s'agrippe le visage et calme sa respiration. Comment a-t-il pu s'endormir aujourd'hui? Il regarde sa montre, 14h30. N'importe quel autre jour, mais pas aujourd'hui. S'il n'était pas aussi assommé, il se moquerait de son hypocrisie. Il devrait plutôt dire tous les autres jours, mais pas aujourd'hui. La tête enfouie entre ses mains, il s'imagine que ses doigts pourraient parvenir à diriger correctement ses idées. Dans le sens des aiguilles d'une montre, peut-être. Cette fois, il va devoir repenser ses plans. Celui qui l'a trahi, celui qui l'a condamné, celui qui vit désormais avec sa femme, et elle. Il n'aura jamais le temps, mais il ne peut supprimer aucune de ces 4 étapes. Chacune est nécessaire. Peut-être qu'il peut encore tout faire. Il se répète mentalement chacune de ses actions depuis des mois. Il sait quelle est sa force. Il se lève pour entrouvrir sa fenêtre et se rallonge. Dans cette fois, il va vraiment falloir choisir. Il ne peut pas ne pas s'occuper de celui qui l'a condamné à rester enfermé dans cet hôtel. C'est lui qui est à l'origine de tout, en ayant imaginé cette sentence absurde. Mais l'origine, le premier élément, c'est la trahison. Sans elle, il n'aurait pas été condamné. Alors s'il veut s'attaquer à la source, il va devoir abandonner sa femme. Continuer à l'imaginer vivant avec l'autre, cuisinant pour lui, repassant ses chemises, se couchant à ses côtés. Non, c'est lui qui lui fout le plus la rage à se comporter comme s'il était mort, alors qu'il était en vue de ce qu'il allait leur dire. Porte à tourniquet. Mais s'il n'avait pas été condamné, l'autre n'aurait pas pu s'installer dans sa maison. Et s'il n'avait pas été trahi, il n'aurait pas été condamné. Il a mal à la tête, il faut qu'il se concentre. Chaque jour, il s'est imaginé se pointant chez chacune de ces personnes. Il a répété. Il a imaginé leur peur lorsqu'il le reconnaîtrait. Il est fort, il le sait. Il est le Raïs. Mais par quel ton commencer? Et qu'est-ce qui lui prend de penser des phrases aussi ridicules? Il doit juste choisir, ou il ne fera rien. Sortir ses plans de son imagination. Se sortir, lui, de cette chambre affreuse. Mais après tout, pourquoi veut-il régler ses comptes? C'est cette logique qui l'a mis là où il est. Est-ce qu'il ne peut pas juste essayer de s'enfuir? En plus, ce dont il a besoin ne sera sûrement plus là où il l'a laissé. Et pourquoi s'est-il imaginé qu'aujourd'hui il ne serait pas surveillé? Est-ce qu'il ne serait pas juste en train d'envisager de quitter une chambre de la mort pour aller vers une autre? Il ferait mieux de fuir. Mais choisi, fuir pour faire quoi? Vivre comme une merde dans une cabane enfermée autant qu'ici? Est-ce qu'il commence vraiment à regretter de ne pas avoir passé cette journée à courir dans l'herbe comme un con? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il doit seulement choisir, mais ses idées sont trop embrouillées. Un verre lui ferait sûrement du bien. Il enfile un pantalon en toile, une chemise et las de vieilles chaussures en cuir. Se lever lui fait tourner la tête. Il peut aller boire ce verre où il veut. À l'Antico, peut-être, ou sur le port, qu'il voit la mer au moins, ou alors dans un endroit bien touristique, histoire de réfléchir tranquille, sans croiser de vieilles connaissances. En attendant, il vide une mignonnette de gin, sa dernière, et avale une boîte de Pringles. Il n'a pas encore fumé aujourd'hui, étrange qu'il n'y ait pas pensé. Est-ce qu'il devrait le faire maintenant? Il sort de sa chambre. Avant de sortir, il faut qu'il demande de l'argent à Lucchino pour se payer ses verres. Comme un gosse, bordel. Il passe devant la réception et croise Angelica, penchée sur des talons instables, qui lui agitent sa grosse poitrine sous le nez. Joyeux anniversaire, tesorino mio. Ses seins étaient-ils aussi gros hier? Il ne se souvient plus. T'as l'air d'avoir besoin d'une grande bière fraîche. Quand elle rit, ses deux seins s'agitent de façon parfaitement synchronisée. Est-ce qu'une femme peut bouger un seul sein à la fois? Attends, je vais te la chercher, Chuchiolo, on va trinquer. Regarde-moi dans les yeux. Dans les yeux, j'ai dit, dit le t-shirt d'Angelica. Ça le fait rire, ça lui semble bien trouvé. Les lettres sont étirées par l'ampleur de ce que le t-shirt contient. Le D est un gros O, le N aplati. Ça le fait rire à nouveau. Elle prend tous ses gloussements pour un oui et se dirige vers le bar. Clac, 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 clac. Contempler des seins moulés dans un top vulgaire, voilà qui pourrait l'aider à retrouver le sens des priorités. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Zuccherino? Où est-ce que t'es sorti souffler tes jolies bougies? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Ça ne fait que commencer. Après cette bière, il va reconquérir Palerme. Il boit une première gorgée. Elle descend lentement, froide, le long de son œsophage. Il imagine la mousse se mélanger dans sa panse aux miettes de Pringles ramollies par le café et le gin. Il ricane. « C'est pas grave, t'es pas obligé de me raconter, on peut trinquer quand même. » Elle est gentille, Angelica. Elle parle fort, mais elle est gentille. Il boit une seconde gorgée, qui vide quasiment son demi. Angelica sourit, attrape son verre et le remplit à nouveau. « Ouais, elle est gentille, Angelica. » Alors il lui raconte. Il lui explique. Et quand elle l'écoute, il la sent hésiter entre admiration et effroi. Elle pousse régulièrement de petits cris qu'il ne sait pas comment interpréter, mais qui l'encouragent à continuer. Voilà, maintenant il faut qu'il choisisse, qu'il commence. Tu sais ce que disait ma mère, mon beau? Choisir, c'est renoncer. Merci Angelica, ça l'aide beaucoup. De toute façon, il faut qu'il attende Lucchino. Il n'a toujours pas d'argent. Il décidera à ce moment-là, il devrait arriver bientôt. Dehors, il entend la cloche de l'église Saint-Ignace sonner une fois. Il est l'admis. Il faut qu'il se mette en route. L'admi de quoi? Il a entendu les cloches il y a un moment déjà, sonné plus d'une fois. 5 fois? Il lui reste 3 heures. Il a bien le temps pour un autre verre. Angelica est partie répondre au téléphone. Elle est gentille. Choisir, c'est renoncer. Connerie. Il se sert une bière. Il ne renoncera à rien. Il est toujours celui qu'il était. À moins que finalement le fait de le penser ne lui suffise, que d'imaginer tout changer et de le raconter à une réceptionniste le rende à ses propres yeux aussi puissant que s'il agissait vraiment. Il paraît que pour que tout reste comme avant, il faut que nous changions tout. Alors pour que tout change, il faut que nous ne changions rien. Il entend la cloche de l'église Saint-Ignace sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Le soleil s'endort sur Palerme. Lui s'endort sur le comptoir. 7 fois, il a réussi à se coucher tôt.